Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Partageux de quoi que j'ai lu dans 2 Corinthiens 2. Puis l'apôtre Paul, il s'en allait à Troas. Il s'en allait chercher, il cherchait Tite. Puis ça dit que quand il est arrivé là, il le trouvait pas. Fait qu'il est reparti. Puis chose que j'ai trouvée qui m'a quand même parlé pour ma vie, parce qu'il m'est arrivé une chose cette semaine pendant que je travaillais. Dans 2 Corinthiens 2. À la fin du verset 2, l'apôtre Paul nous parle de l'influence qu'on a sur terre aussi. L'influence qu'on a par rapport aux gens qui. les gens qu'on côtoie tous les jours. Puis, j'ai trouvé ça beau de lire ça parce que ça disait que Dieu, il prépare toujours un chemin pour nous autres. Tu sais, lui, quand Paul il est parti de Troas, est-ce que je le dis bien? Je le dis bien? Quand il est parti de là, il cherchait Tite. Mais sur son chemin, il s'est ramassé à partager l'Évangile. Que ça dit qu'en tout lieu, Dieu il respire à travers nous. Dieu il est un reflet à travers nos vies. Puis ça dit qu'il y a des gens qui accepteront pas qu'est-ce qu'on va leur parler de Dieu. Puis il y a des gens qui vont l'accepter. Il y a des gens pour qui on est un odeur de mort qui mène à la mort, mais on est un odeur de vie pour ceux qui vont aller à la vie. Fait que je trouvais ça beau de voir comment est-ce que Dieu il nous dirige dans des chemins souvent qu'on ne sait même pas où est-ce qu'on s'en va, mais Dieu est au courant de ça. Puis la dernière chose que je voulais vous partager là-dessus, c'était laissez-moi fouiller dans ma mémoire là. Il y a un bon point que je voulais vous apporter là. L'apôtre Paul était là. Ah, il faudrait quasiment que je retourne là dans ma Bible. J'ai un blanc de mémoire. Laissez-moi 2 secondes. Ça sera pas long. Rapport avec ma Bible. J'avais déjà tout parlé. Cette semaine, en tout cas, j'étais en train de. Il y a un de mes frères, Louis, qui avait beaucoup de pâtes à viande à vendre, puis en tout cas, j'en ai vendu beaucoup, puis j'en ai revendu d'autres la semaine passée à job. Puis je trouvais ça le fun parce que nos vies parlent, puis ma vie, elle parle. Souvent, on pense que ça parle pas tant que ça, mais ça parle plus qu'on pense. Puis mon boss, en joke, là, il disait que j'étais crosseur, là. Il disait que je vendais les pâtés puis que je me mettais de l'argent dans les poches, mais tout ce que je vends, l'argent, je me fais aucune cote dessus. Mais je sais qu'il niaisait. Puis Mario, il le revire de bord, il a dit, Gilles, là, il dit, je vais échapper 5 cents à terre, là. Puis je sais que je vais échapper 5 cents parce qu'il passe en arrière de moi. Puis il dit, même si j'échappe juste 5 cents à terre, il va reprendre le 500 puis il va venir me le redonner dans les mains. Mais je trouve ça le fun de voir comment est-ce que nos vies parlent. Puis comment, à travers tout ce qu'on fait, Dieu nous dirige dans des places où ce qu'on peut pas imaginer, mais on respire puis Christ respire à travers nous autres. Puis c'est ça que l'apôtre Paul y parlait. Qu'on était vraiment ses porte-paroles sur terre puis que les gens nous le voyaient à travers nous. Fait qu'il faut pas lâcher, faut continuer à marcher de manière intègre, puis que Dieu se révèle à travers nos vies, en tout lieu, peu importe où est-ce qu'on va. Puis quand on s'en attend pas, surtout. Fait que merci Père pour la chance que tu nous as donnée de te connaître, Père. d'avoir préparé nos cœurs, de nous avoir disposés à te recevoir. Puis merci qu'on ait bien voulu voir ton Fils Jésus. Continue à parler à travers nos vies. Continue à nous garder près de toi, Père, pour qu'on puisse être tes reflets sur terre jusqu'au jour où tu vas venir nous chercher, Père. Qu'on soit vraiment conscient que nos vies sont importantes, puis qu'il y ait des gens qui vont aller à toi à travers nos vies. Fait que merci pour tout ce que tu fais dans chacun de nous. Puis merci pour la parole qui va être amenée ce matin, Père, qui va nous aider à vraiment te ressembler encore plus. Fait que merci pour le pasteur Richard qui est là ce matin. Puis je te demande vraiment de le bénir, Père, parce qu'il prend du temps à part pour nous. Puis on t'en remercie beaucoup pour qu'est-ce qu'il fait. Fait que merci pour tout. Amen.
Merci Gilles, ton partage est associé à ton verset, puis moi aussi je peux témoigner Gilles, tu sens bon. Tu as une bonne odeur et j'ai souvent reniflé et senti ton odeur et tu sens vraiment bon. On sent fort aussi, hein? L'odeur c'est quelque chose qui se rend loin. Avec le temps et avec le nombre d'enseignements que j'ai apportés à l'Église ici, vous commencez à me connaître un peu, et même je dirais que vous me connaissez beaucoup. Vous savez bien que je manque jamais l'opportunité de mettre l'accent sur la grâce, hein, sur les émotions, sur le cœur. Depuis que Dieu m'a touché, là, 10-15 ans, j'adhère pas à un christianisme dur, froid, rigide, un peu légaliste. Ceci étant dit, notre foi en Jésus a besoin d'être vraie et d'être authentique. Excellent. C'est juste moi qui l'avais pas vu. Elle doit s'appuyer sur l'ensemble de la parole de Dieu. Et c'est là qu'avec l'ensemble des Écritures, on trouve un équilibre. Parce que toute vérité, quand on met l'accent sur l'amour, bien il y a les autres vérités qui sont là, la justice, la bienveillance qui équilibre les différentes vertus. Et ce matin, ça faisait longtemps que je vous amener ce sujet-là, quand on enseignait sur les pensées, que tout ce qui est bon soit l'objet de vos pensées, sur la paix de Dieu, on mettait beaucoup d'accent sur le cœur, sur les émotions, sur ce qu'on vit à l'intérieur, et j'avais hâte d'amener ce message sur la responsabilité personnelle. L'expression « c'est pas de ma faute » hein, représente une des idées les plus répandues aujourd'hui. Hein, on le voit à la télévision, à la radio, avec les gens qu'on côtoie. Mais je dirais que si on retournait dans l'histoire autant 100 ans, 1000 ans, on verrait que l'être humain a toujours eu cette réaction de dire hey, « écoute, c'est pas de ma faute ». C'est une pensée que je suis pas responsable, c'est la faute des autres, c'est la faute de personne. Nos politiciens, pauvres politiciens qui font de leur mieux, sont des experts pour véhiculer cette idée. Hein. Quand il y a des politiciens, là ils se sont calmés un peu pendant la pandémie, pendant la COVID, mais en temps normal, nos politiciens se renvoient la balle, dépensent beaucoup trop d'efforts à s'accuser les uns les autres et à se défendre. Et ces énergies-là devraient être utilisées à travailler ensemble à bâtir une meilleure société. Excusez-moi. Au niveau judiciaire, dans les palais de justice, où on est là pour faire la justice, pour porter des bons jugements. Est-ce que la personne est responsable ou non? Est-ce que c'est de sa faute ou c'est pas de sa faute? Dans les palais de justice, on en voit la démonstration. Personne n'est responsable de rien. Puis si tu es reconnu coupable, c'est quoi le grand drame des personnes qui sont victimes? Quand l'agresseur ou le fraudeur est reconnu coupable, qu'est-ce qui arrive? Oui, mais quand à l'étape d'après, très vrai ce que tu dis, mais souvent les sentences sont tellement bonbons que c'est insignifiant de dire il a causé un drame d'un extrême. On pense à notre monsieur Vincent, j'oublie le... celui qui avait volé là dans les fonds. Vincent Lacroix, j'ai eu un blanc de mémoire. Vincent Lacroix qui a volé pour au moins 125 à 175 millions de dollars. Puis c'était tous des petits épargnants comme vous et moi. Il y en a qui avaient 300 000 dollars dans leur REER qui étaient dans ces fonds-là. Puis ils ont tout perdu à 75 ans, obligés de retourner sur le marché du travail avec rien devant eux. Ben lui, il a eu combien au total? Hein? Deux ans et demi de prison. Et c'est dans tous les domaines. Donc, même quand on fait la justice, les conséquences sont minimes. Oui, notre société moderne, je dirais, prend la peine de faire la lumière et de chercher la vérité. Donc, si on retourne à 30 ans ou 50 ans en arrière, il n'y avait rien qui était dit, tout était caché, il n'y avait pas de procès, il n'y avait pas d'intention de dénoncer. Maintenant, c'est un plus qu'on donne l'information. Mais une fois que les faits sont établis, souvent à la fin, c'est la faute de personne. Ceux qui ont commis les mauvaises actions s'en tirent sans sanction. On veut trouver la moindre raison pour nier la responsabilité et tout est réglé. Plusieurs exemples, hein, il y a de ça 10 ans, c'était une mode qui présentement n'est plus là. Mais pour dire combien on est allé loin, v'là 10 ans, un homme au volant en état d'ébriété a tué une mère de famille qui marchait dans la rue, mais elle marchait sur le trottoir, là. Il a été innocenté et le juge a dit parce qu'il était trop ivre pour savoir ce qu'il faisait. C'est pas de ma faute, je suis pas responsable. Et la société adhérait dans cette... Au moment où il l'a fait, est-ce qu'il avait conscience qu'il écrasait une personne? Non. Mais il n'y a aucune responsabilité du fait que tu as bu, tu t'es mis toi-même dans un état où tu n'allais même pas être conscient de tes actions ni des conséquences. On regarde ça, puis on peut se dire que c'est normal que la société pense comme ça, il faut s'y faire. Parfois, moi, ça m'enrage, j'écoute les nouvelles. Richard, calme-toi, regarde. On ne doit pas s'attendre à beaucoup plus. Mais cette façon de penser-là, de dire « c'est pas de ma faute », est attachée, je dirais, à tous les humains. Et ça inclut nous aussi, enfants de Dieu, nous aussi en tant que chrétiens. Et cette façon de penser-là nous affecte dans nos vies spirituelles. Et Dieu veut faire de nous des hommes, des femmes responsables qui assument leurs actions et qui assument notre vie. Assumer notre responsabilité personnelle, c'est le chemin à prendre pour grandir, pour glorifier Dieu, puis pour avoir une vie chrétienne avec laquelle, hey, je suis à l'aise, je suis bien, je suis confortable, parce que ma vie n'est pas de me cacher, ma vie n'est pas d'avoir peur, de fuir, puis de dire, non, je n'étais pas là, c'est pas moi, mais d'être capable d'assumer, de dire, oui, j'ai une part de responsabilité dans ça, oui, j'aurais pu être plus vigilant, puis compter sur la grâce de Dieu qui ne nous demande pas d'être parfait. Dieu souhaite qu'on ait la joie de prendre notre vie en main en assumant nos paroles. Hein, parfois, on fait des jokes. Moi, ça m'arrive souvent, comme pasteur là, officiel, je faisais pas souvent de, de joke ou je me permettais pas, je me disais, le moins t'en fais, le moins d'erreurs tu vas faire. Puis, de temps en temps, j'en faisais une, puis pour moi, j'étais pas assez habitué, puis là, je blessais quelqu'un, fait que, OK, non, j'assume que quand j'ai fait cette petite farce-là, qu'il y a une personne qui vivait telle situation, puis que ça la blessait, et je demandais pardon. Donc, on veut assumer nos paroles, on veut assumer nos actions et nos choix et leurs conséquences. On veut comment voir où ça a commencé, cette affaire-là, de « c'est ma faute ». Et évidemment, ça a commencé à la chute au Jardin d'Éden avec Adam et Ève. Et c'est merveilleux de savoir qu'il y a eu un temps, on ne sait pas combien de temps ça a duré, mais il y a eu un temps où le « c'est pas de ma faute, c'est ta faute », ça n'existait pas, mais ça n'a pas duré. Vous avez les passages dans Genèse, vous pouvez tourner, mais l'essentiel est là. Dieu avait dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sinon, il mourrait certainement. Adam a enseigné cela à Ève, car Ève était au courant. On va voir cette discussion avec le serpent. Et tous les deux, pendant un certain temps, ils ont observé ce commandement-là. On va lire les versets 2 à 4. Quand Satan s'est approché de Ève, la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Des fois, juste tordre un petit peu la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam? « Vous mourrez certainement. » Elle commence à enlève une partie de la vérité de peur que vous ne mouriez. Puis Satan, sous la forme du serpent, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Lui a dit, vous ne mourrez point. Il a dit au contraire, vous allez être comme Dieu. Vos yeux vont s'ouvrir, puis vous allez connaître le bien et le mal. Donc, ça va être... Ce ne sera pas un moins, il n'y aura pas de mort spirituelle, ça va être une délivrance, ça va être un plus. Ils en ont mangé, les yeux se sont ouverts, ils ont vu qu'ils étaient nus. Et là, Dieu s'est adressé à qui? Dieu a parlé à Ève, à Adam. C'était Adam qui avait donné les directives. Adam les avait données à Ève. Fait là, il a demandé, il s'est adressé à l'homme, il lui a demandé, « Où es-tu? » Et là, Adam qui se cache et qui se justifie. Verset 12. « L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Et j'en ai mangé. Et l'Éternel, Dieu, dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Adam est presque en train de dire à Dieu, hein, l'Éternel, qu'il ne voit pas, mais avec qui il était en communion, celui qui était le créateur de toutes ces belles choses-là qu'il voyait, Adam qui se permet de dire, où es-tu? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi sais-tu que tu es nu? Sa réponse, c'est, regarde, c'est un peu ta faute, Dieu, parce que c'est la femme que tu m'as donnée. La femme, elle au moins, hein, on reconnaît souvent ce trait-là naturel, la femme est capable d'admettre une partie de ses torts, une partie de sa responsabilité, elle a dit, écoute, je me suis fait avoir. Il m'a séduite, il a joué sur les mots, il a dit que le, fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence. Puis là, pour elle, c'est devenu comme une paire de souliers dans un bel éclairage, là, dans une belle présentation, un manteau de fourrure. C'est « Ah, oh, je le veux, j'en ai besoin. » Elle dit, au moins, elle admet qu'elle a été séduite. Et Dieu tient chacun d'eux pleinement responsable et donne au serpent, à la femme et à l'homme les conséquences de leurs actions. Hein, au serpent, qu'est-ce qu'il dit au serpent? Tu vas ramper sur le sol et ultimement, ta postérité, la descendance de la femme, va t'écraser la tête et toi, tu vas lui mordre le talon. C'était une allusion déjà, une référence à Jésus-Christ qui allait mordre, qui allait avoir le tendon là, percé par le clou et que Jésus-Christ, en mourant, allait écraser définitivement l'adversaire. Donc, la responsabilité est donnée à chacun. Les conséquences, hein, à la femme, c'est quand même grand. Tu enfanteras avec douleur. Ton mari dominera sur toi. On le voit, hein? Quand il y a des proxénètes qui abusent de femmes, c'est rare qu'on voit des femmes proxénètes qui abusent d'hommes, qui font un trafic, là. On voit que la femme a un caractère plus doux, plus sensible, et que physiquement, elle est moins forte que l'homme, puis parfois au niveau d'un caractère pour dominer, puis abuser. Heureusement, la femme a cette douceur, mais elle peut être à la merci de l'homme. L'homme qui est là, qui domine sur elle. Donc, la douleur dans l'enfantement et la domination de l'homme. Et pour l'homme, en tant que pourvoyeur, en tant que chef de son foyer, en tant que quelqu'un qui veut prendre soin, bien lui, c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture du sol et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Hein, on voit la situation. Déjà deux enfants, puis eux autres qui ont faim, puis Adam qui a besoin de travailler fort pour voir. Depuis ce temps, la réaction première de l'être humain mis devant sa faute, c'est de nier, de se justifier, de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est pas à cause de moi. Jésus a enseigné la responsabilité personnelle. Quand Jésus a appelé les hommes à le suivre, il a utilisé plusieurs petites phrases et une qui revient à plusieurs reprises, on l'a ici à l'écran. Toi, suis-moi. Il a dit à Philippe, un des douze, à Matthieu, le publicain qui l'a suivi, exactement, ses disciples, ses apôtres qui ont répondu à l'appel se sont fait interpeller en disant « Toi, suis-moi ». Il l'a dit au jeune homme riche, hein? Il disait qu'il avait tout observé la parole de Dieu dès son enfance, tout était beau, puis qu'il voulait suivre Jésus. Jésus il a dit « Va, vends tout ce que tu as, puis suis-moi ». Et il a été tout triste. Il l'a dit à plusieurs fois, les critères pour être disciple. Laisse les morts enterrer les morts, puis toi, suis-moi. Ce « toi, suis-moi » implique que Dieu nous demande de le suivre, de lui obéir, peu importe ce que mon voisin, peu importe ce que mon frère fait, peu importe le coup, les circonstances ou notre entourage. On est responsable devant Jésus, c'est entre Jésus et chacun de nous. On se souvient en Jean 21, dernier chapitre, la pêche miraculeuse des disciples. une des dernières rencontres de Jésus avant son ascension. La discussion avec Pierre, qui allait être un des fondements de l'Église, qui allait jouer un rôle important. Et Jésus demande trois fois à Pierre, « M'aimes-tu? » Hein? Puis Pierre, il savait plus où se mettre, il savait plus comment réagir. « Tu sais bien que je t'aime. » Et les trois fois, Jésus réplique, « Eh bien, paie mes brebis. Aie un rôle clé en prenant soin de mon peuple, de tes frères. » Comment auriez-vous réagi à ça? Une bonne chose. Mais Jésus lui donne une information. Il lui dit que quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Jésus dit à Pierre, « Tu vas mourir comme un martyr. Tu vas me glorifier en étant tué parce que tu es mon disciple à cause de mon nom. » Hein? Historiquement, il y en a qui pensent que Pierre a été crucifié sur la croix puis qu'il aurait dit la tête en bas parce que je mérite pas d'être mis à mort de la même façon que mon maître. On ne le sait pas exactement, mais ce qui est certain, c'est que Jésus lui a dit qu'il allait être ligoté, qu'il allait être enchaîné et qu'il allait être amené pour être exécuté. Comment auriez-vous réagi? Alléluia, Seigneur! Hein? Pierre savait pas trop quoi penser, et là, ça c'était lui, là, mais pourquoi moi, tu sais, puis les autres? Il voit Jean, et demande à Jésus, mais à lui, là, moi j'aime pas ben mon scénario, mais à lui, qu'est-ce qui va y arriver? Pierre se demandant à lui-même, « Moi, je vais être exécuté, mais c'est-tu juste moi ou c'est tout le monde qui va y passer? » Et Jésus lui dit que ce qui arrive aux autres, c'est pas de ses affaires, c'est pas à lui à le savoir. Que t'importe, toi, suis-moi. Et Jésus affirme ici le principe de la responsabilité personnelle. Toi, marche dans les voies que j'ai pour toi. Toi, fais ce que je te dis. Accepte ce que je t'annonce à l'avance et laisse faire les autres. Ce qui est intéressant, c'est que pas longtemps après, en acte 4, qu'est-ce qui arrive à Pierre? Pierre est mis en prison. Et qu'est-ce qui est arrivé à Jacques qui avait été arrêté par Hérode pas longtemps après? Il avait été mis à mort. Et là, Pierre, 2, 3, 4 ans après, qui est là, qui se dit, « Écoute, Jésus l'avait dit, ils ont tué Jacques, puis là, moi, je suis en prison, puis c'est fini. » Qu'est-ce qui est arrivé à notre ami Pierre? On se souvient de l'exemple, hein? La situation, un ange a endormi tout le monde, a ouvert le cachot et l'a fait sortir. Et notre bon ami Pierre, il est mort à quel âge? Quand on voit qu'il écrit en 2 Pierre, là, sa dernière lettre, historiquement, là, on sait qu'il était facilement dans la 60aine. Donc, il aurait pu se casser la tête toute sa vie de dire, « Écoute, moi, je vais mourir jeune, puis je n'aurai pas une longue vie. » Puis il a vécu, puis il a servi le Seigneur longtemps, et Jésus lui avait juste dit de quelle façon il glorifierait Dieu. La vie de tous les chrétiens, la vie ne sera pas identique ou égale. Il ne nous arrivera pas toutes la même chose. On va vivre des choses différentes sous la souveraineté de Dieu et c'est à nous de vivre pleinement ce que notre Maître place dans nos vies? Comment est-ce qu'on réagit devant la vie? Seigneur, tout le monde s'en prend à moi. Hein, le ciel me tombe sur la tête. Ou encore, Seigneur, donne-moi la grâce de faire face à ce que tu places dans ma vie. On est responsable devant Dieu et on veut assumer de cœur, volontairement, cette responsabilité et pas se voir comme étant victime des circonstances. Les circonstances de la vie, on a besoin de reconnaître notre responsabilité. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui est de ma faute? Qu'est-ce que je peux dire? Celle-là, c'est moi qui l'ai échappé. Hein, je me souviens dans un film chrétien où il y avait un contexte de pompier, puis il y avait quelqu'un qui avait fait une erreur et il a dit « My bad, Captain, hein, c'est mon erreur, là, OK, je l'admets. » On a besoin de faire le tri entre les circonstances de notre vie qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Reconnaître quand on est responsable puis quand on ne l'est pas. En voiture, tu es arrêté à un feu rouge, un feu de circulation, tu attends et tu te fais rentrer dans le derrière. Est-ce que tu es responsable de ça? Ça t'est arrivé? Ouais, mais là, tu es sur la route, un feu de circulation. Mais si tu roules à toute vitesse sur la glace, tu perds le contrôle et tu frappes une voiture, on voit bien la différence. Donc, Dieu veut qu'on assume ce qui nous appartient. Et on a besoin de réaliser que des fois, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Puis, parce qu'on est dans un monde pécheur, imparfait, il y a des choses qui arrivent tout simplement qu'on n'est pas responsable. On veut voir, reconnaître les bonnes et les mauvaises circonstances. Dans la vie, qu'on soit chrétien ou non, il arrive à tous des bonnes et des moins bonnes choses. Parfois, la vie est un long fleuve tranquille. Hein? On est-tu bien? Tout va bien. Un ciel bleu sans nuages. Jésus est avec nous. Rien ne peut troubler notre paix. Gloire à Dieu. On vit des bonnes circonstances. Quand vous en vivez, profitez-en. Soyez heureux. Soyez reconnaissants. En même temps, restez humble, hein? C'est pas parce que tu es un meilleur chrétien que les autres que Dieu te bénit, hein? Ça va pas bien parce que tu es un disciple qui aime plus Jésus que les autres et que Jésus, en retour, t'aime plus, hein? Quand Jésus a parlé à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Pierre avait tendance à penser qu'il l'avait l'affaire plus que les autres. Hein. Il était toujours celui qui sautait, puis qui était le premier, tira pas à la croix, puis Pierre a appris un peu l'humilité. Parfois, la vie est une haie d'épines. Hein. Vous vous souvenez l'expression, une haie d'épines dans les proverbes, que la vie du méchant est une haie d'épines. Une haie d'épines, imaginez marcher, là, t'es dans une haie d'épines. Aussitôt que tu veux bouger un bras, aïe, ça fait mal. Tu veux avancer, aïe, ça fait mal partout. Tu frottes, puis la vie n'est pas facile, n'est pas agréable. Une épreuve n'attend pas l'autre. On n'a même pas le temps de prendre notre souffle. Tu vis des mauvaises circonstances. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là? Première chose, restez calme. Restez calme, ne pas s'énerver. S'énerver encore plus, si tu es dans une haie d'épines, puis tu bouges tout en même temps, les bras puis les jambes, ça va faire de plus en plus mal. Restez calme. Aussi, restez confiant. Dieu t'aime autant. Il n'est pas fâché envers toi. Il ne t'a pas abandonné. Les épreuves font partie de la vie de disciples dans un monde pécheur. Et ce qu'on veut ne pas dire, c'est d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Hein? C'est le début du verset qu'on va lire dans Ecclésiaste. Comment ça que ça va donc mal? Avant ça, ça allait tellement mieux. Puis là, depuis un bout de temps, je ne sais pas ce qui arrive, tout va mal. L'auteur, l'Ecclésiaste, a bien résumé ça dans ces quelques versets. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Quel beau verset! Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Il y a un autre verset pas loin dans Ecclésiaste qui dit que quand il y a un arbre de tomber, tu sais, qu'on ne peut pas le relever. Quand Dieu courbe et permet qu'il arrive des situations fâcheuses, Dieu est au courant, Dieu le permet, puis dans sa souveraineté, on peut dire, Dieu, je veux composer avec ça. Je veux l'accepter, puis je veux compter sur ta grâce. Si ce que tu vis est la conséquence des mauvaises actions, apprends de cela. Choisis l'obéissance, puis aie confiance que Dieu va t'aider à t'en sortir. Donc, des fois, on a besoin de s'ouvrir les yeux, de dire, écoute, c'est exactement dans la conséquence de mes actions. On a des mauvaises habitudes de vie, on a un surplus de poids, notre sang est rempli de toutes sortes de mauvaises substances, de gras, de sucre, puis notre médecin nous a dit depuis des années qu'on était en danger. Bien, quand il arrive un accident lié à ça, de dire, hey, Seigneur, là, tu sonnes la cloche, puis c'est pas toi qui me punis, c'est une conséquence naturelle. Donc là, je vais assumer que c'est la conséquence directe de mes mauvais choix, et à partir de là, Seigneur, je veux compter sur toi pour que tu me donnes la force. Quand c'est des aspects plus moraux, plus liés à une désobéissance, on peut compter sur la grâce de Dieu. Dieu, là, il fait grâce aux hommes, puis il résiste aux orgueilleux. Quand dans notre vie, on arrive de dire, Seigneur, je veux te le confesser, c'est de ma faute, c'est mes choix, c'est mes décisions, puis Seigneur, je veux te demander pardon. Hey, Dieu met, ouvre les portes, Dieu se réjouit, puis Dieu veut mettre sa grâce pour nous aider à se relever. Dans ce temps-là, l'adversaire, lui, veut nous accuser. Mais quand on confesse et on dit « oui, c'est de ma faute », bien, le Seigneur est là pour nous relever et nous encourager. Donc, ça, c'est quand c'est la conséquence directe de nos mauvaises actions. Si ce que tu vis ne dépend pas de toi, accepte cette épreuve en comptant sur Jésus qui veut que tu le glorifies en acceptant cette injustice ou en acceptant cette situation qui vient, on ne sait pas d'où, mais Dieu la permet. Bien des fois, dans la vie chrétienne, on a besoin de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. De dire, Seigneur, là, il y a plein de choses qui m'échappent, c'est comme de l'eau qui me coule entre les mains. Je veux juste ouvrir les mains, puis Seigneur, dire, je suis là, je continue à espérer en toi, mais je ne contrôle plus rien. Ça t'appartient, mais mon cœur, il veut continuer d'être à toi. La responsabilité personnelle nous permet d'accepter ce que Jésus permet dans nos vies en reconnaissant notre part et en comptant sur la grâce de Dieu pour ce qui ne dépend pas de nous. Est-ce qu'on veut être des victimes d'une vie difficile? Non, on ne veut pas avoir une attitude de victime. Ou est-ce qu'on veut, devant les difficultés, mettre notre confiance en Dieu pour vivre avec Jésus, pour retrouver la paix et la joie? On veut voir quelques implications de la responsabilité personnelle. Le fait d'accepter notre responsabilité personnelle nous évite de gaspiller notre vie en rejetant constamment le blâme sur les gens, sur les circonstances. Et quand on rejette le blâme sur les circonstances puis sur les gens, sur notre entourage, en tant qu'enfant de Dieu, inévitablement, on rejette le blâme sur Dieu. Et la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que ce qui nous arrive contribue à grandir à la ressemblance de Jésus. Et j'aime bien, vous avez ici ce verset-là avec la version Parole vivante. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Wow, je trouve ça beau. Les intentions bienveillantes de Dieu. Rejeter constamment le blâme sur les circonstances, c'est jeter le blâme sur Dieu qui permet ces choses-là. C'est rendre Dieu responsable pour ce défilé de notre responsabilité. On se souvient, Adam, qu'est-ce qu'Adam a dit? Où es-tu? Comment as-tu fait pour savoir que tu étais nu? Qu'est-ce que tu as fait? C'est la femme que tu m'as donnée. La femme a dit, c'est le serpent. Au moins, elle était capable d'avouer, le serpent, je me suis fait avoir, il m'a menti, il m'a trompé. Moïse a parlé sévèrement au peuple d'Israël qui rejetait la faute sur Dieu. On a le verset ici. « C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable? » Avec notre Dieu Jésus qui a révélé le Père, avec sa bonté, avec sa compassion, avec le fait qu'il est doux et humble de cœur, qu'il est compatissant, notre Jésus. Hey, encore plus, on peut prendre cette vérité-là. Est-ce que notre Jésus est un Dieu mauvais? Non. Est-ce que c'est un berger qui est doux et humble? Est-ce qu'on va le rendre responsable puis de dire tu nous fais du tort? Non, jamais. Si on a une attitude où le monde entier est contre nous, ça veut dire que Dieu est contre nous. Quels sont nos sentiments face à Dieu? Est-ce qu'on croit qu'il veut nous faire du tort? Est-ce qu'il est injuste? Est-ce qu'on doute de la bienveillance et de la bonté de Jésus à notre égard? Non. En prenant notre responsabilité, on peut croire de dire, « Je ressens des choses, je me sens abandonné, mais Seigneur, tu est là. » Il y a une autre option à rejeter le blâme sur les circonstances, sur les autres, sur Dieu, c'est de réaliser notre responsabilité personnelle. Un chrétien, je ne me souviens plus c'est qui, mais c'est une citation que j'ai entendue plusieurs fois dans ma vie chrétienne, à plusieurs reprises, ça doit être quelqu'un de célèbre. Il est raisonnable de dire que 90% du temps, je suis responsable pour 90% de mes difficultés personnelles. Donc, 90-90, ceux qui sont forts en statistiques, ça voudrait dire qu'on serait responsable pour quel pourcentage? 0.9 fois 0.9? 0.81, 9 fois 9? 9 fois 9? 4. Donc, on va être gracieux, on va dire que je suis responsable pour 50% des choses qui m'arrivent. Un accident de voiture non responsable, non, ce n'est pas de ta faute. Une maladie grave à votre enfant, c'est pas de votre faute. La fermeture de votre employeur dans la pandémie, vous avez rien fait, vous avez pas été un employé négligent. Il y a des situations où vous n'êtes pas responsable. Et pour le 50% que tu n'es pas responsable, que tu es responsable plutôt, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On a besoin d'assumer. Quand tu n'es pas responsable, tu es responsable de la façon dont tu réagis. Tu n'es pas responsable du tout, OK, mais tu es responsable de ta réaction à cette situation. si on nage au milieu des difficultés tout le temps, puis c'est une caractéristique de notre vie, on doit s'évaluer puis voir, y a-t-il une partie qui m'appartient à ça? Dans nos relations, on a besoin de faire ce que Dieu nous demande, puis de laisser les autres s'occuper de leurs responsabilités. Le fait que les autres, parfois, c'est dans le monde chrétien, hein, c'est un monde fermé, puis souvent, c'est là qu'on a le plus de relations. Donc, nos conflits, nos difficultés, nos déceptions vont venir plus de notre entourage chrétien. Et le fait que les autres n'ont pas agi correctement face à moi, c'est jamais une raison acceptable pour ne pas remplir mes responsabilités face aux autres puis face à Dieu. Tellement souvent, on est à la recherche d'un frère, d'une sœur qui, par son mauvais exemple, devient notre alibi. Et parfois, notre alibi, on va le chercher loin, hein? V'là 25 ans, v'là 20 ans, v'là 10 ans. Oui, mais as-tu pensé à régler ça et à avoir la paix, de pardonner et te libérer de l'amertume? Non. Donc, on met la responsabilité sur les autres. Devant Dieu, on ne va jamais être blanchi d'une faute qu'on a faite. Parce qu'une personne a déjà mal agi. J'ai agi mal, je le sais, mais c'est à cause de ce qui m'est arrivé. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quelques exemples rapides dans le couple, hein? Le mari qui dit si elle se soumettait à moi, je serais un bon chef. La femme dit s'il était un bon chef, je me soumettrais à lui. Il y en a un des deux qui, à un moment donné, doit assumer sa responsabilité. Dieu me demande ça à moi en tant que mari. Puis je vais aimer ma femme d'une façon sacrificielle, d'une façon constante. Je ne vais pas me décourager. Je vais garder une bonne attitude. Et ça, c'est ma part devant Dieu. Et si ma femme ne réagit pas comme je voudrais, j'ai ma motivation devant le Seigneur pour continuer à agir de la bonne façon. Et parfois, c'est l'épouse qui doit avoir cette persévérance. Donc, quand on assume, imaginez quand les deux assument leur rôle, sont engagés, sont responsables devant Dieu, bien là, tout est possible. Même chose pour les enfants. L'obéissance, c'est pas une condition. C'est une question de choix. C'est les enfants, parfois, en tant que parents, on dit « réagissent pas bien à mon enseignement, donc je me fâche parce que mes enfants, ils ont des problèmes. Hein? » Parfois, j'entendais ça des parents avec des jeunes enfants, mais « mes enfants, tu les connais pas, ils ont des problèmes. » Mais t'es son père, vas-y, aide-le, persévère. Puis à un moment donné, tu vas voir ton enfant réagir. À l'Église, dans nos relations, c'est la même chose. Toute une différence dans une Église où chacun assume sa part de responsabilité et que tout le monde s'engage. Quand tu trouves une raison de dire « moi, j'aurais pas une bonne attitude », puis moi, je vais me traîner les pieds, puis je vais le démontrer à tout le monde parce qu'il m'est arrivé une chose. Bien là, ce qu'on fait, on est en train de dire, j'assume pas ma responsabilité. Dieu me demande d'amener une contribution positive. Le pardon face à une offense faite envers toi. Notre responsabilité, c'est de pardonner. Puis si ça se fait pas instantanément dans notre cœur, c'est de continuer de dire à Jésus, « Jésus, je n'ai pas encore pardonné, mais je veux pardonner, je veux me libérer de l'amertume, puis je veux compter sur ta grâce, puis c'est dans cette direction-là que je veux aller. » Notre responsabilité. Marc-André, par rapport au pardon dans les conférences séminaires de vie chrétienne, disait, « Si tu es responsable de seulement 10% du tort, prends tes 10% de responsabilité et demande pardon pour ce que tu as fait. Et occupe-toi pas des autres. Ça, c'est être responsable. On veut être responsable devant Dieu. Est-ce que notre radar spirituel est à la recherche d'une faute, d'un manquement, de quelqu'un qui n'aurait pas agi selon nos attentes pour dire « Ah, regarde, j'ai une bonne raison pour ne pas faire ce que Dieu me demande. » Dernière idée principale, les accusations. Si on est dans un milieu ou si on est une personne qui accuse les gens, aussitôt quelqu'un fait une faute, on le reprend fortement et surtout rapidement. On leur laisse pas l'opportunité d'admettre leur tort, d'assumer leur responsabilité. Quand on a une attitude accusatrice comme ça, les gens ne seront pas portés à admettre leur tort parce qu'ils savent en partant qu'ils n'auront pas le temps de le faire et que même s'ils le font, ils vont se faire accuser encore plus. Ah, regarde, il l'a dit, ben oui, puis là, on en rajoute. Les politiciens, hein, pauvres politiciens, quand les politiciens veulent être honnêtes, puis avouer, c'était à moi la faute, ils disent, ah, on te demande ta démission. Hey, gardez-le, lui, il est honnête, puis il est capable d'avouer ses torts. C'est un comme ça qu'on veut. Permettons aux gens qui nous entourent en tant qu'enfants de Dieu d'admettre leur part de responsabilité. Ça veut dire que quand il y a une faute, on reste calme. On prend du temps. Et on agit avec grâce. Et lorsqu'on laisse un peu de temps, le temps à la personne de se calmer, parfois c'est une journée, parfois c'est une semaine, parfois c'est deux semaines. Et quand la personne vient puis admet sa faute, on condamne pas davantage. Au contraire, on loue de dire, hey, écoute, j'apprécie tellement ton attitude humble. J'apprécie ta franchise. J'apprécie tellement ton courage de venir devant moi puis de me dire que tu avais tort d'agir comme ça. C'est ça qu'on veut. Les accusations ou une ambiance, une atmosphère d'accusation rend difficile de reconnaître notre responsabilité. Quand on sait qu'on va être attaqué, bien, on se défend, on se protège, on accuse l'autre, on dit non, c'est pas encore moi qui va tout subir ça. J'aime beaucoup Jacques 1:7 qui dit si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On peut pleinement, en tant qu'enfant de Dieu, assumer nos erreurs parce que Dieu dit, marche dans la lumière. Essaie pas de te cacher, viens puis dis, oui, c'est moi qui a fait la faute, c'est moi qui a fait ou dit telle parole. Il y a un pardon en Jésus. Celui qui avoue ses transgressions puis qui demande pardon, il est justifié. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons été justifiés, qui avons connu le pardon puis la grâce de Jésus, on est appelés à agir avec grâce les uns envers les autres. Si on est dans un contexte d'accusation, c'est très dur d'assumer ses responsabilités. La responsabilité personnelle, c'est la manifestation d'une grande maturité. C'est une valeur qu'on doit développer dans nos vies. La prochaine fois que vous aurez à la bouche ou dans la pensée, c'est pas de ma faute. Changez en disant, quelle est ma responsabilité? Devant toi, Seigneur, donne-moi ta lumière, que le Saint-Esprit m'éclaire. Je veux pas me protéger, je veux juste prendre ma part. Si l'on décide de vivre une vie responsable, on va découvrir tous ses avantages. Notre vie n'est pas dépendante des autres. Ma vie est entre les mains de Jésus, de Dieu. Puis elle est stable malgré les situations que je peux traverser, sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Philippiens 3:13 dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Et assumer notre responsabilité nous permet d'aller vers l'avant. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que tu as en réserve pour moi, Jésus? Je veux pas avoir des ancres, des boulets aux pieds qui m'empêchent d'avancer en mettant toujours la faute sur les autres. Est-ce qu'on veut jouer à la victime, demeurer dans la défaite, dans l'apitoiement, en ressassant constamment les mêmes histoires? À ce moment-là, on va être incapable de prendre notre vie en main pour Jésus et avec Jésus. Faisons confiance à notre Dieu. Il est juste, il ne nous décevra pas, il ne nous trompera pas. Et malgré les obstacles et les difficultés, on veut lui faire confiance, on veut l'honorer en le servant et en le suivant. Réaliser notre responsabilité personnelle, c'est adopter une attitude positive. Une attitude qui rend la vie chrétienne joyeuse et agréable. On a la joie de prendre sa vie en main en comptant sur la grâce de Dieu. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, moi le premier, comme nous tes enfants, on est rapide à se protéger, à avoir peur et à dire « c'est pas de ma faute, c'est pas moi ». On a tendance à être des victimes dans la vie. On a tendance à douter de toi, à croire que tu peux être injuste parce que tu permets des circonstances négatives, des circonstances qu'on n'aurait pas voulu dans notre vie. Seigneur Jésus, on veut assumer notre part. On veut venir devant toi. On veut que tu fasses la lumière dans notre vie. Oui, Seigneur Jésus, on veut marcher dans la lumière. On veut venir à toi. On veut que ton Saint-Esprit puisse avoir la liberté de nous montrer là où on n'est pas correct. Et juste de se réjouir que tu nous le montres et de voir qu'avec toi, on ne reste pas là dans une attitude de défaite en étant accusé, mais tu nous pardonnes et tu nous justifies devant ton Père. Seigneur Jésus, donne-nous d'être ces chrétiens qui sont responsables devant toi. Ces chrétiens qui ont la joie d'avancer avec toi, qui ont cette liberté de cœur, ne vivant pas dans la peur, n'ayant pas plein de dossiers non réglés, des choses qu'on met dans le placard et qu'on se décide de fermer, on se dépêche de fermer la porte. Seigneur Jésus, rends-moi responsable devant toi avec la joie et la paix de vivre. Merci pour ta grâce. Parce qu'on peut le dire qu'on n'est pas parfait, puis qu'on a des manquements, puis qu'on fait des erreurs parce que tu nous aimes quand même. Ça ne change rien à notre situation devant toi. Comme c'est libérateur d'admettre nos fautes, notre cœur est léger. Quelle belle ambiance aussi ça met dans notre église, dans notre famille, dans notre entourage, quand on permet aux autres qui avouent leur tort et qu'on les prend dans nos bras. Seigneur Jésus, gloire à toi. Merci pour tes enseignements. Jésus, si tu nous dis à chacun de nous, « Toi, suis-moi », on veut dire, « Oui, Jésus, je veux te suivre, Jésus. » Amen. Merci.